7h55, côté météo, on est à moins 8 degrés. Faites attention, un peu de. Il y a des rafales, hein? Fait que de la poudrerie, là. Peut-être sur les routes, peut-être aussi. En tout cas, nous, on le voit d'ici, là, de nos studios, là, de la neige qui passe sur les toits des édifices, mais un peu de poudrerie avec les rafales à 40 km à l'heure. Le maximum qu'on va atteindre aujourd'hui, ben on est vraiment pas loin, à moins 8, c'est moins 7, alternance de soleil et de nuages. Moins 8 demain, même chose pour samedi, donc alternance de soleil et de nuages. Dimanche, c'est un moins 4 degrés avec de la neige, et lundi, des nuages à moins 5.
La circulation présentée par Eurospec.
Vous conduisez une européenne? Pour tous vos besoins, mécanique générale, performance, alignement, entretien, pensez Eurospec. Euro-spec.ca.
Seul élément d'information que j'ai à vous soumettre, là, puis ça cause pas beaucoup de problèmes, là, pour ne pas dire pas mal aucun. En cas de sud, l'accès vers Charest, c'est partiellement entravé par une panne, mais c'est tellement mollo ces routes à matin que c'est vraiment possible. Puis la seule place à la carte où je vois du rouge, c'est Capitale, là, en fait, intersection Capitale-Laurentienne, dans à peu près toutes les directions, il y a un petit ralentissement, mais c'est juste ça.
Merci beaucoup, Max. Et si vous voyez quoi que ce soit, 88-971-1021. Vous le savez, hier, on a eu des sondages historiques pour Boulevard 101, des sondages historiques pour Rage Against le matin. Et ça, c'est en grande partie à cause de ce que j'appelle les amis du show, de la grande famille, le show de gang qu'on fait ici à Rage Against le matin. Nos chroniqueurs, chroniqueuses, les amis, les collaborateurs, je vous remercie énormément. On a les meilleurs en ville à un point tel que la compétition essaie de nous les arracher. J'ai pas peur de le dire, mais nos amis sont fidèles, restent avec nous. Et je le dis à tous ces gens-là qui passent nous voir régulièrement, et je le dis personnellement en ce moment, à Jacinthe Varel, notre chroniqueuse politique, qui est en studio avec nous. Jacinthe, félicitations pour les résultats, parce que tu en fais grandement partie.
Merci beaucoup. Félicitations à vous aussi. C'est extraordinaire de vous voir nous réveiller chaque matin avec autant d'enthousiasme, autant d'actualité aussi, de commentaires, d'humour. Vous êtes vraiment une belle gang.
Oh, j'aime qu'elle elle a ajouté humour là-dedans. Ouais, je trouve ça drôle qu'on est un peu drôle quand même.
Là, quand on prend des shots avec Marc Tanguay et qu'on joue du Mario Pelcha avec Geneviève Guilbeault, je nous trouve drôle, moi.
C'est vrai que c'est comique. C'est vrai que c'est humoristique un peu. Jacinthe-Ève, c'est la fin de la session parlementaire. Donc, puis on a plein de questions pour toi ce matin, comme toujours. Mais peut-être, tu sais, tant qu'à y être, allons-y directement avec, selon toi, qui est sorti gagnant de la dernière session parlementaire?
Hey, hein? C'est tellement tough, hein? Difficile, session parlementaire. Ça a tellement brassé que qui est sorti gagnant, c'est bien difficile.
Ah ouais, c'est pas... Ben, avec les sondages, j'aurais pensé que la réponse aurait été le Parti québécois assez aisément, non?
Oui, le Parti québécois, si on... je pense que je cherchais une personne.
Oui, OK, ouais. Ben, pas Saint-Pierre Plamondon, peut-être.
En même temps, je les ai trouvés plus absents dans cette session-là, le Parti québécois. Je me trompe-tu?
Un peu plus absent. Ça a été plus difficile aussi pour eux. Ils ont eu différents enjeux à avoir. Mais oui, c'est sûr que ça reste les grands gagnants du portrait paysage. Mm-hmm. Du paysage de la colline parlementaire à Québec, ça reste le Parti québécois qui est le moins pris dans des tourbillons qui finissent plus, là, comme la CAQ, comme le Parti libéral qui cherche encore un chef.
Donc, QS, là, QS, qui a été avec Aaron Boisy, puis la co-porte-parole, toute la course à la co-porte-parole féminine et tout ça, là, ça a été le plus difficile.
Absolument.
Mais attends, j'aimais où t'allais de bord, parce que là je t'avais mis de la pression.
Ben oui.
Parce que tu cherchais une personne.
Oui.
As-tu une personne en tête?
Bien, c'est sûr que Sonia Lebel a réussi. Tu sais, elle est très effacée, Sonia Lebel, on n'en parle pas beaucoup, mais elle a réussi à boucler les négociations avec la FIC, donc avec les infirmières. Et en ce moment, ça va brasser avec les médecins, ça brasse déjà avec les médecins. Donc, que ce dossier-là avec les infirmières soit bouclé, c'est un sacré bon coup. Et je dirais aussi, là, je le mentionne quand même régulièrement, mais Simon-Jolin Barrette présente toujours des projets de loi pertinent, bien ficelé, et c'est une machine. Simon-Jolin Barrette, il travaille très fort. J'ai travaillé pour lui directement et je continue de le suivre, même si il n'est plus mon patron. Et c'est quand même un bourreau de travail qui est très rigoureux, et ça paraît parce qu'il présente plusieurs projets de loi qui sont toujours qui répondent à des réels besoins. Donc c'est bon, là, je vais me faire dire, ben oui, on sait bien, tu as travaillé pour lui, mais non, pour de vrai, c'est franchement il mérite qu'on y cerne, on y décerne une marque de reconnaissance, je dirais, pour son travail et la teneur et les propositions derrière ces projets de loi.
Justement, allons possiblement, selon ta réponse, plus loin dans cette veine-là. Mettons là, qu'en 2025, on apprend que François Legault ne se représentera pas aux élections de 2026 puis qu'il y aura course à la chef-qu'à la CAQ. On peut croire que Geneviève Guilbeault va être dans cette course-là. Est-ce que Simon-Jolin Barrette pourrait être un nom intéressant à retenir comme potentiel futur chef de la CAQ, si c'est pas 2026, peut-être plus tard aussi, là?
Absolument. Simon-Jolin Barrette, dès 2018, était identifié comme le poulain de François Legault. Simon-Jolin Barrette qui avait eu comme mandat le ministère de l'Immigration en 2018, qui était un ministère qui a eu beaucoup, beaucoup de chaleur dans la première année au pouvoir de la coalition Avenir Québec. Vous vous rappelez sans doute les multiples transformations qu'on a eues en immigration, les multiples manifestations aussi qu'on a eues. Ça brassait beaucoup, mais il y a toujours eu des dossiers très stratégiques pour le gouvernement et c'est nécessairement, ça va faire partie des candidats à regarder qui pourraient être intéressés, mais qui ont certainement la prestance et le bagage qu'il faut pour aspirer à ces fonctions.
Dans les perdants, est-ce que le grand perdant est François Legault en s'accrochant à Nordvolt, à Lyon Électrique?
Absolument.
Oui.
Absolument. Bien, il a perdu son allié de la toute première heure. Il a perdu Pierre Fitzgibbon, qui est parti en cours de session parlementaire. On a démarré l'automne et on a eu cette bourde-là qu'il qualifiait de super ministre, qui avait le dossier, selon François Legault, le dossier Nordvolt, c'était le dossier industriel le plus important de l'histoire du Québec. Ah ouais, ça dépassait les barrages.
De l'histoire du Québec?
Eh oui, ça dépassait nos grands barrages dans le Nord. Donc, c'est sûr que quand tu annonces d'avance ta plus grande réussite et la plus grande réussite industrielle de l'histoire du Québec, puis finalement, ça fait plouc!
Ouais, c'est ça.
En commençant, en perdant le super ministre qu'on a identifié comme... Parce que c'est les termes de François Legault. Hein? Ouais. Super ministre, ça vient pas des médias, ça vient de François Legault qui l'a utilisé au départ. Donc, super ministre, dossier le plus important de l'histoire. Franchement, quand on annonce des grosses réussite comme ça d'avance et que ça va pas plus loin que ça, c'est un cuisant échec pour François Legault, certainement.
Jacinthe-Ève, Geneviève Guilbeault était avec nous en studio hier. On a jasé musique, on a jasé politique aussi. T'as pensé quoi du travail de Geneviève Guilbeault au cours des derniers mois?
Elle a le vent dans le visage. Hein? On l'a vu en plus hier avec la réprimande de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui finalement a dû la réprimander pour le rapport annuel de la Société d'assurance automobile du Québec qui n'a pas été déposé en avril 2024, comme c'était supposé. Donc, elle a le vent dans le visage. C'est pas facile. Elle a des dossiers compliqués. Le fameux dossier du troisième lien, le dossier du tramway, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui n'a pas d'affinité naturelle avec Bruno Marchand, le maire de Québec, ou Bruno Marchand qui n'a pas d'affinité naturelle avec le gouvernement.
Ça
dépend de quel bord
on
le voit. Mais c'est sûr que ça facilite pas les dossiers de transport dans la région de Québec. Alors, franchement, elle a des dossiers stratégiques qui lui permettent de faire des gains, mais qui l'expose beaucoup. Donc, dès qu'il y a des bourdes, dès qu'il y a des enjeux, bien, elle est prise être la grande coupable, finalement, de ce qui n'avance pas.
Dans un autre membre important de l'équipe de la CAQ, le ministre Christian Dubé en santé, es-tu en train de rater son début de réforme? Là? Ça va pas bien avec les médecins. Santé Québec, ça semble être finalement une grosse bébite organigramme où on a donné des 10 % d'augmentation à tout le monde. Il présente pas de l'efficacité à l'heure actuelle. Là.
Bien, encore là, Christian Dubé, c'est la même chose que François Legault. Il a misé énormément sur Santé Québec. Il a identifié lui-même ça comme étant la solution, la clé d'un premier jeu de dominos qui vont permettre de faire tomber l'ensemble des dominos du réseau de la santé vers une meilleure réussite, une meilleure accessibilité. Alors, c'est sûr que quand tu présentes ta pièce maîtresse et que tu dis « c'est la création de Santé Québec », puis il a défendu avec ardeur ce dossier-là, c'est lui qui l'a monté, le dossier de Santé Québec, bien, c'est certain que dès qu'on voit la concrétisation l'utilisation de ça. On a vu les salaires des hauts dirigeants de Santé Québec. Bon, c'était pas une cachette quand il a créé ça. En créant une société d'État, on savait qu'on aurait nécessairement... il voulait aller chercher les top guns de la santé.
Ouais.
Mais en même temps, là, on est en mesure déjà de constater quelle sorte de transformation on est en train d'effectuer. Et c'est sûr que tous ceux qui avaient des craintes, Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé sous le gouvernement libéral, avait identifié déjà des enjeux avec ça. Et c'est en train de... On est en train de constater que, finalement, on est encore dans une couche de bureaucratie très lourde, très dispendieuse. Et on admet déjà là, qu'il y aura des coupures dans les services.
Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'avait pas pensé. T'es comme, OK, on va enlever les agences privées, mais finalement, t'es pas capable de s'en passer pour le moment, obligé de faire un pas en arrière. Là, maintenant, tout le monde va être sous le même toit, mais ça fait en sorte que des gens qui travaillaient à temps partiel pour un hôpital, à temps partiel pour un autre, bien là, peuvent plus le faire parce qu'on dépasse les normes du travail. Donc, ça fait en sorte qu'on manque encore plus de personnel dans les hôpitaux. Fait qu'il y a plein de choses techniques, terrain comme ça, qui a échappé.
Ouais.
Puis ça, pour moi, ça veut dire qu'il l'a vu trop think big, think organigramme, structure, gouvernance et non pas opérationnel.
Tu as absolument raison. Puis c'est ce que je dis depuis longtemps quand je commente les dossiers du Réseau de la santé. Christian Dubé est tombé dans un piège de se faire conseiller par les gens qui sont à la tête depuis longtemps.
Mm-hmm.
Et quand tu te fais conseiller par des hauts cadres, même dans le Réseau de la santé, là, il y a cadres intermédiaires. Ça, c'est les cadres qui sont en relation directe avec les équipes de travail.
Ouais.
Tu as les cadres supérieurs et tu as les hors cadres. Les hors cadres, là, c'est les hauts dirigeants des CIS, des CIUS. Christian Dubé est très branché avec les hors-cadres qui sont loin du terrain depuis longtemps parce qu'ils ont monté la hiérarchie. Là. Et ça fait justement que les problématiques très terrain comme on a combien de préposés aux bénéficiaires, combien d'infirmières auxiliaires, combien d'infirmières, combien d'ergothérapeutes qui cumulent deux ou trois emplois dans deux ou trois centres de santé différents et parce qu'ils font du 60 heures par semaine, c'est de leurs affaires s'ils veulent cumuler ça. Mais ce 60 heures par semaine, si on rationalise puis on concentre tout vers un seul et même employeur, bien, on va se retrouver justement avec des perdants. Ça, c'est une problématique terrain qu'on vient d'apprendre là, et que le ministre de la Santé, Christian Dubé, vient d'apprendre. Mais c'est plein d'exemples comme ça qui font en sorte qu'ils ne seront pas portés à ses oreilles parce qu'il se fait conseiller par
des gens qui sont loin du terrain.
Des gens qui sont loin du terrain.
Quand t'es pas connecté.
Puis il s'est créé une grosse couche bureaucratique avec Santé Québec qui va finalement être aussi déconnecté du terrain, qui sont des très hauts gestionnaires qui peuvent bien voir de façon macro, mais dans le Réseau de la santé, le micro est très, très, très important. Il y a un impact direct sur les soins.
Jacinthe-Ève, je veux ton expertise. Je veux que tu te mettes dans la peau d'une péquiste. Tu fais partie du PQ en ce moment, mettons. Tu es dans mon scénario. On fait quoi, là? T'sais, on sait qu'on est bien placé dans les sondages. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses? On s'implique plus, on brasse plus, on reste sous le radar. Qu'est-ce qui serait la stratégie en ce moment puis pour qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année pour le Parti québécois?
Ça serait d'être à l'écoute des critiques. Vraiment d'être à l'écoute des critiques. Écoutez, moi, c'est ce que je dirais. Là, je suis dans l'équipe du PQ, je suis d'abord chef. Soyons à l'écoute de ceux qui embarquent pas dans notre train, ceux qui embarquent pas dans notre mouvance. Soyons davantage à leur écoute plutôt qu'être en confrontation ou en réaction ou en déni. Ça sert à rien de bloquer les commentaires. Bon, il y a des gens qui ont pas d'allure sur les réseaux sociaux, là, mais ça sert à rien de se mettre en confrontation avec ceux qui nous mettent au défi par rapport à nos idées. Là, ils poussent beaucoup l'idée de la souveraineté. On sent, on lit, on entend, on le voit, les gens ne sont pas là du tout au niveau de la souveraineté. Fonce tant que tu veux sur l'enjeu de la souveraineté parce que toi, ça te tient à cœur. Mais si tu n'es pas à l'écoute de pourquoi ça ne lève pas ton affaire, qu'est-ce qui bloque, où en est la société, où en sont les différentes générations au Québec par rapport à justement cet enjeu-là de la souveraineté ou n'importe quel enjeu de payer des lunchs gratuits dans les écoles, par exemple, parce que Québec solidaire l'a sorti, ça, mais c'était, c'était préalablement le Parti québécois en avait parlé en 2016-2017, je pense, de cette idée d'avoir la gratuité des lunchs scolaires à l'école. Mais quand on a l'écho de la population, l'écho des chroniqueurs, l'écho des gens sur les réseaux sociaux, c'est important d'être à l'écoute pour ajuster notre message.
En effet. Je termine avec 2025. Qu'est-ce qu'on surveille le plus au début? Moi, ça va être le budget, parce qu'on a 11 milliards de déficit. C'est plate à dire, mais je vais être sûr qu'on finisse à 11, pas à 15. Ouais. Puis surtout que...
Tu t'attends pas à mieux.
Non.
Souhaite que ça soit pas pire. Ouais.
Puis surtout qu'on s'améliore pour l'année 2025-2026.
Ben oui, le budget, ça va être quelque chose à surveiller. Puis, tu sais... Faut regarder les colonnes, comment on va jouer avec les colonnes de chiffres aussi, parce que c'est très, très facile de dire, inquiétez-vous pas, le déficit reste à 11 milliards comme prévu, ou il a monté à 12, mais pas 15 comme on en avait entendu parler. Oui. Mais finalement, on anticipe, par exemple, et là, c'est vraiment ça, là, le jeu des colonnes de chiffres. Si on anticipe une croissance économique supérieure, ça nous place dans une situation déficitaire moins grande, artificiellement, parce qu'on fait des projections que l'économie va tellement bien aller que finalement...
C'est pas encore de l'argent dans les coffres, là.
Absolument. Donc ça va être très, très délicat parce qu'il y a l'entrée en fonction de l'administration Trump au mois de janvier, des tarifs douaniers qui vont certainement venir impacter notre économie. Et ça brasse aussi à Ottawa avec... on est en mois préélectoraux de campagne électorale à Ottawa.
Depuis deux ans.
Oui, c'est ça, mais... Là, on va être dans le vrai jeu. C'est sûr que ça va être à surveiller, comment on va jouer aussi avec ces chiffres-là. Et puis, le projet de loi sur l'énergie qui a été remis à plus tard. Et probablement des mouvements aussi importants encore au sein des députés de la Coalition Avenir Québec. On n'a pas terminé avec les crises. On se souvient que dans la session parlementaire, j'ai parlé du départ de Fitzgibbon, mais il y a Youri Chassaing aussi qui est devenu député indépendant en critiquant finalement l'approche du gouvernement de la CAQ en disant la CAQ avait dit qu'on ferait X, Y, Z et on fait ABC plutôt. Donc, ça va être aussi à surveiller s'il n'y a pas d'autres députés qui en ont marre, qui claquent la porte ou qui se font montrer... un ministère moins important, peut-être.
Ce qui est le fun avec tous ces sujets-là, c'est que c'est pas la fin de nos discussions non plus. À Rage Against le matin. D'ailleurs, je te souhaite pas joyeuses fêtes tout de suite parce qu'on va se reparler d'ici la vacance des fêtes, c'est sûr. Jacinthe Avarel, notre excellente chroniqueuse politique, tu le sais, c'est toujours un immense plaisir quand tu passes nous voir jaser politique.
Pareil, partagé. Plaisir partagé pour moi aussi.
Bonne fin de semaine.
Merci.
Salut.
On s'arrête deux